Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans la prairie. Alors, en préambule de cette rencontre qui va, j'en suis sûre, vous passionner, j'ai envie de vous lancer une question. Si je vous dis eucaryote, qui parmi vous sait ce que c'est? Alors, nous avons quatre mains se lèvent dans l'Assemblée. C'est une introduction en matière pour vous présenter Pascale Cossard. Vous la connaissez toutes. Elle est spécialiste en microbiologie cellulaire, professeure à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle à l'Académie des sciences. Peut-être nous expliquera-t-elle ce que c'est qu'une secrétaire perpétuelle, bien que ça ne se féminise pas. Elle est commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, docteur honoris causa en Suisse, en Suède, en Angleterre. La liste de ces prix et distinctions est tellement longue, mais tellement longue, que cette heure ne suffirait pas à les citer. C'est juste hallucinant. Alors, la première question qui vient évidemment à l'esprit, Pascale Cossard, c'est que c'est comment êtes-vous venu au monde de la microbiologie? Et ensuite, vous peut-être donnerez-vous la définition de la microbiologie. Alors d'abord, comment? Okay.
Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir parce que j'aime bien partager avec tout le monde l'enthousiasme que j'ai pour ce que je fais. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a 4 ans, j'avais présenté mon premier bouquin et c'était Robert Verluca qui m'avait présenté. Et je voulais lui rendre un hommage parce que ça avait été un moment extrêmement chaleureux et extrêmement gentil. Donc, ayant dit ça, voilà, je suis là où je suis, après quand même un long parcours, parce que je ne suis quand même pas toute jeune, mais je suis donc originaire du Nord et j'ai fait mes études de chimie à Lille. Et après ces études de chimie, je suis partie aux États-Unis où j'étais aussi dans un département de chimie, mais j'ai commencé à virer vers la biochimie. Et puis, comme j'avais rencontré celui qui allait être mon mari juste avant de partir, je voulais revenir et on m'a dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où revenir, c'est l'Institut Pasteur. Et donc, j'ai postulé à l'Institut Pasteur et je suis entrée à l'Institut Pasteur. J'étais acceptée dans un laboratoire pour faire une thèse, mais bien sûr, il fallait décrocher un poste. Et pour décrocher un poste, j'étais interviewée par Jacques Monod, qui avait eu le prix Nobel quelques années avant, qui était directeur de l'Institut Pasteur à ce moment-là. Et après 1h30 de cuisinage, il m'a dit « je vous donne la bourse, mais il faut suivre le cours de microbiologie, de virologie, d'immunologie, pour un tout petit peu compléter tout ce que vous ne savez pas ». Donc j'ai fait le cours de microbiologie. Et puis après, j'étais enceinte, donc j'ai fait le cours de virologie, mais je n'ai jamais fait le cours d'immuno. Donc voilà, et j'ai commencé une thèse qui était un petit peu de la chimie des protéines. Et puis après, pour faire un stage postdoctoral, au lieu de repartir aux États-Unis comme tout le monde, comme j'y avais été, j'ai traversé la rue du docteur Roux et j'ai fait de la chimie de l'ADN. J'ai, disons, en gros, séquencé le premier gène qui a été séquencé à l'Institut Pasteur. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose qu'aux protéines et à des choses chimiques que vous ne comprenez déjà pas. Et j'ai commencé à m'intéresser aux bactéries. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux bactéries et je me suis intéressée beaucoup à une bactérie qui s'appelle Listeria, qui contamine les aliments et qui donne des problèmes aux femmes enceintes, qui peut produire des méningites, etc. Donc voilà pour le parcours. Et comme je viens de vous dire que je m'occupais des bactéries, je voudrais maintenant vous expliquer un tout petit peu ce que c'est qu'une bactérie, ce que c'est que le monde du vivant, ce que c'est qu'un virus. Et là, je vous demande 5 minutes d'attention parce que c'est les trucs les plus importants, le message que je voudrais que vous ayez avant de partir. Donc, ris pas, Jacques. Non, il ne faut pas s'accrocher, c'est très simple. Le monde du vivant est partagé en 3 parties. Vous savez compter jusque 3, ça va. La première partie, ce sont les bactéries. Et les bactéries, ce sont des êtres unicellulaires, une seule cellule. Vous allez dire, on ne sait pas ce que c'est qu'une cellule. Une cellule, c'est une poche. C'est tout. D'accord ? Donc, les bactéries, ce sont des êtres unicellulaires, une seule poche. La deuxième catégorie, ce sont les archées. Ce sont, pareil que les bactéries, des êtres unicellulaires, une poche, mais elles sont un petit peu plus compliquées. La membrane n'est pas tout à fait pareille. Et puis, à l'intérieur, toutes les machineries sont vraiment compliquées. Donc, j'ai déjà dit, les bactéries, les archées. On arrive aux eucaryotes. Alors, les fameux eucaryotes. Les fameux eucaryotes, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont multicellulaires et ceux qui sont monocellulaires. D'accord ? Donc, les multicellulaires, c'est vous, mesdames et messieurs, les hommes, les animaux, les plantes. D'accord ? Ça, c'est les multicellulaires. Et les monocellulaires, ce sont ce qu'on appelle les protistes. Et dans les protistes, il y a des microalgues, il y a des protozoaires et il y a des levures, des champignons. J'ai tout dit. J'ai tout dit, la microbiologie, c'est ça. Donc, je répète, il y a les bactéries monocellulaires, il y a les archées monocellulaires, il y a les eucaryotes, il y a les multicellulaires et il y a les monocellulaires. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les eucaryotes ont un noyau. À l'intérieur de chaque cellule, il y a un noyau. Alors que les bactéries n'ont pas de noyau, les archées n'ont pas de noyau, mais les eucaryotes ont des noyaux. Vous savez tout ? Vous avez tout retenu, ça c'est très important. Mais je n'ai pas parlé de virus. Les virus ne sont pas des organismes vivants. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Ils n'ont pas de machine pour faire des protéines. Ils ne savent pas se nourrir. Ils ne grandissent pas, mais ils se multiplient. Et pour se multiplier, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent dans des cellules, ils infectent, ils se déshabillent, et à ce moment-là, leur matériel génétique est pris en charge par la cellule qui fabrique des nouveaux virus. Donc les virus, retenez, les virus, ils ont toujours la même forme. Évidemment, ils n'ont pas tous la même forme, mais un virus, pour moi... Un virus n'est pas un organisme vivant. Et il est capable d'attaquer les trois catégories du monde du vivant. Que sont-elles ? Formidable ! Donc, on a des virus qui infectent les bactéries, on a des virus qui infectent les archées, on a des virus qui infectent les hommes, on a des virus qui infectent les animaux, on a des virus qui infectent les plantes, et on a des virus qui infectent aussi les petits protistes qui sont dans l'environnement, dans la mer, etc. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Ceux qui veulent partir maintenant, ils peuvent partir. Ils ont mon grand message. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui va me poser une deuxième question, mais j'ai oublié ce qu'elle voulait dire.
Non, cette question, la question suivante est la suivante. En fait, Pascal, vous intervenez très souvent à la radio dans une émission merveilleuse pour petits en apparence, mais pour petits et grands en réalité, où où des jeunes vous posent des questions. Alors, si un jeune vous posait la question, Pascal Cossa, à quoi sert votre métier ? Qu'est-ce que vous lui répondriez ?
Oui, je crois que vous la connaissez, c'est l'émission Les Petits Bateaux, là, France Inter. Donc c'est une émission qui est sympa, évidemment, il faut répondre à un adulte en ayant une question posée par un enfant. Donc qu'est-ce que je réponds ? Mon métier, il sert à faire reculer la connaissance et il sert à faire avancer la science, il sert à faire avancer les connaissances sur l'environnement, sur la santé, sur l'équilibre du monde, sur tout ce qui est important pour qu'on vive en paix, en bonne santé, en équilibre avec tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est, disons, la propriété de la biologie, mais il y a d'autres chercheurs, il y en a dans cette salle, et donc les buts ne sont pas toujours les mêmes. Mais quand même, faire reculer la connaissance, parce qu'on a besoin de cette connaissance pour pouvoir comprendre ce qui se passe, etc. Avancer.
Oui, faire reculer. Mais au-delà de ça, en fait, votre métier touche à différents métiers. Vous, notamment, vous travaillez avec des spécialistes de l'agroalimentaire, des spécialistes de l'environnement et beaucoup d'autres métiers.
Oui, enfin, on est en général quand même très, très spécialisé. Hein. Personnellement, moi, j'ai travaillé sur une bactérie qui était infectieuse. Donc, j'ai travaillé sur l'infection. J'ai travaillé sur les interactions entre une bactérie et des cellules avec des organismes vivants. Il y a des gens qui travaillent sur des bactéries qui sont dans le sol, qui ont d'autres buts que moi. Il y a des gens qui travaillent sur les plantes et qui s'intéressent aux pathogènes des plantes. Donc, tout le monde ne travaille pas sur la même chose. Mais c'est vrai que dans mon laboratoire, par exemple, j'avais aussi bien des médecins que j'avais des informaticiens, que j'avais des gens qui avaient différentes formations qu'ils avaient acquises aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Angleterre, au Costa Rica, etc. Voilà, donc.
Les étapes de la découverte des microbes, donc ce monde qui s'appelait avant le monde des animalcules, qui a été, j'ai l'impression, enfin dans votre livre, on explique que la première étape a été au XVIIe siècle et c'est une découverte quasiment aléatoire par M. Leeuwenhoek.
Oui, parce qu'aujourd'hui on parle des microbes. Mais il faut bien se mettre dans la tête que, par exemple, les Romains, ils ne connaissaient pas les microbes. Est-ce que vous avez une idée de à quel moment on a pu penser qu'il y avait des microbes sur Terre? Aristote, par exemple, disait qu'il y avait quelque part des générations spontanées. Tout d'un coup, il y avait de la pourriture et il apparaissait des petits vers ou il apparaissait des microbes, etc. La notion de microbes qui a en fait balayé ce concept de la génération de spontanée, la notion de microbe, elle a commencé à être évoquée justement vers le XVIIe siècle. Et ce monsieur von Leeuwenhoek, dont vient de parler Marie-Laure, en fait, c'est un monsieur qui n'était pas du tout un scientifique. C'était un tisserand qui était à Delft, aux Pays-Bas. Et en fait, c'est quelqu'un qui faisait des tissus. Et pour examiner la qualité de ces tissus, il avait mis au point un petit microscope. Il avait une lentille extrêmement performante. Il a d'ailleurs fait plusieurs sortes de lentilles. Et il était capable de voir si les tissus étaient de très, très bonne qualité. Et donc, ce monsieur von Leeuwenhoek, un jour, il a pris de l'eau dans la mare qu'il avait dans son jardin. Et il a commencé à voir des trucs qui bougeaient. Et pour lui, il a commencé à parler d'animalcules. Je crois que c'est le premier qui a dû voir des bactéries. Il a dû voir des bactéries, il a dû voir des petits protozoaires, etc. Je sais que je ne l'ai pas mis dans mon bouquin, mais il a pris autre chose et il a été capable de voir, et c'est lui le premier, de voir des spermatozoïdes. Donc c'est le premier qui a vu que ça bougeait. Donc je ne voudrais pas faire d'analogie, mais c'est quand même quelqu'un qui a été très très important pour la découverte des micro-organismes. Et puis il y a eu un bond. On passe de 1666 à peu près à la fin du 19e siècle, au moment où tout le monde commence à penser que vraiment cette génération spontanée, c'est pas vrai, qu'il y a des grandes maladies, il y a des grands fléaux qui doivent être dus à des micro-organismes, à des microbes. Et arrivent donc Pasteur, Robert Koch en Allemagne et des tas de gens qui vont suivre tous ces grands savants. Alors peut-être qu'il faudrait que je repasse un tout petit peu à une définition, parce que je viens d'utiliser le mot microbe, et puis je viens d'utiliser le mot micro-organisme. Alors le mot microbe, je ne l'aime pas du tout, parce qu'il est très générique. Le mot microbe, c'est un mot qui est associé, si vous voulez, à une maladie. C'est un mot qui a été inventé par un type qui s'appelait Cédillo, c'était un chirurgien qui était à l'Académie de médecine, un Français, un médecin militaire. Et il avait proposé le mot microbe pour tous les agents pathogènes des maladies. Et à ce moment-là, il y avait Louis Pasteur qui était en train de travailler justement sur ces agents infectieux qu'il appelait bactéridies, vibrions, animalcules. Quand on reprend tous les écrits de Pasteur, ils ont des noms tout à fait différents, vibrio. Et quand Cédillo a proposé microbe, Pasteur a dit... Il l'a pris. Et après, on a vu que le mot microbe était pris. Donc, tout le monde a considéré que le mot microbe était associé à une maladie, était associé à quelque chose de nocif, pathogène. Et en fait, c'est pas vrai. Les microbes, et c'est ça aussi le deuxième grand message aujourd'hui, c'est que les microbes, ils sont vraiment, vraiment indispensables à toute la vie. Ils sont indispensables à votre vie, ils sont indispensables à l'environnement, ils sont indispensables aux écosystèmes. L'homo microbe a une connotation négative en France, mais aux États-Unis ou en Angleterre, il a de moins en moins la connotation négative. Un microbe, c'est un petit organisme vivant que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, que vous voyez avec un microscope qui vous grandit cet organisme de 40 fois et qui vous permet de le voir. Donc ça, c'est très important. Microbe ne veut pas forcément dire quelque chose de méchant. Voilà.
Oui, effectivement, microbe, c'est vraiment l'arbre, le mot qui cache la forêt. Et d'ailleurs, en première page, on a tous ces mots, bactéries, archées, levures, champignons, micro-algues, protozoaires et virus, qui sont tous ces arbres, tous ces mots qui sont abrités derrière ce mot. Mais alors nous autres microbes intellectuels, nous envisageons votre monde principalement dans sa relation à la santé. Vous venez de parler d'environnement et personnellement, j'ai découvert que les premières bactéries étaient nées il y a 3 milliards d'années, qu'elles avaient engendré des cyanobactéries et engendré tout un cycle qui nous concerne au premier chef, qui est le cycle de l'ozone et du carbone. Est-ce que vous pourriez nous parler des microbes et de l'environnement ?
Bon, je vais faire simple, encore une fois. Donc oui, d'abord, je ne suis pas une grande spécialiste de l'évolution, mais quand même, c'est important de savoir qu'il y a 3,5 milliards d'années, la Terre n'était pas ce qu'elle est. Alors, il faisait beaucoup plus chaud, et il y avait des tas de gaz qui étaient là, et il n'y avait pas d'organismes vivants, puisque je suis en train de vous dire que les premiers organismes vivants ont été des bactéries qui se sont formées un peu comme une petite poche de lipides, de trucs gras, qui se reforment sur elles-mêmes, et puis qui empaquettent quelque chose qui va devenir l'ADN. Bon, évidemment, ça a pris du temps pour que ça se fasse, mais les premières bactéries, on estime qu'elles sont arrivées il y a 3,5 milliards d'années. Bon, c'était des bactéries qui étaient anaérobies, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Et puis tout d'un coup, il y a eu des bactéries anaérobies qui ont été capables d'utiliser la lumière du soleil pour fabriquer du sucre et produire de l'oxygène. C'est un petit peu compliqué, je ne vais pas aller dans la chimie, mais c'est ça la logique. Et ce sont des bactéries qu'on appelle des bactéries capables de faire de la photosynthèse. Elles produisaient de l'oxygène et elles en ont commencé à en produire de plus en plus. Et finalement, la Terre a commencé à avoir beaucoup plus d'oxygène. Et puis, comme il y avait une certaine évolution, il était apparu aussi des cellules avec un noyau. Il y a même des cellules avec un noyau qui ont avalé ces bactéries. Et donc ça a donné naissance aux premières micro-algues qui ont été capables d'utiliser la lumière du soleil et de produire de l'oxygène. Donc ce que je suis en train de commencer à vous dire, c'est qu'il y a eu un grand saut dans la concentration d'oxygène sur la Terre. Et ce grand saut de concentration d'oxygène sur la Terre, ça a fait une explosion de la biodiversité. Sont apparus des tas d'espèces qui étaient donc aérobies. Et on a eu des bactéries aérobies capables de vivre en présence d'oxygène qui sont arrivées. Donc, voilà.
Mais d'où l'importance de protéger certaines bactéries à l'heure actuelle, d'où l'importance en fait de comprendre le cycle actuel. Parce qu'il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intriguée dans ce livre qui est formidable, parce que même pour une béotienne comme moi, je finis par comprendre des choses. Il y a par exemple une notion très paradoxale qui est là, enfin un organisme très paradoxal qui est l'organisme de l'archée. L'archée intervient dans le plancton. Pascal, vous allez nous expliquer qu'il n'y a pas un seul plancton, mais il y en a deux. Mais l'archée intervient également dans l'estomac de la vache. Donc, et le rôle, enfin, c'est ce qui est marqué dans le livre. Donc, le rôle est assez paradoxal.
Non, les archées, c'est une grande famille de micro-organismes. Vous vous souvenez, c'est la deuxième catégorie. Elles ont des membranes un peu particulières. Elles sont un petit peu compliquées. C'est vrai que les premières archées étaient capables de fabriquer du méthane et qu'on trouve des archées dans le rumen des vaches et que donc elles fabriquent du méthane. Il y a peut-être quelque chose pour lequel je voudrais revenir, c'est quand même cette histoire de fabrication de l'oxygène. Ça, je crois que l'histoire de la photosynthèse qui produit de l'oxygène, il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que les algues sont capables d'en faire, les plantes sont capables d'en faire, et que c'est très important. Et que quand on déforeste, on enlève tout ce qui fabrique de l'oxygène. Autre chose aussi, c'est avec l'oxygène, et j'aurais dû le dire, c'est avec l'oxygène qu'on fait de l'ozone. Grâce avec la lumière du soleil, avec l'oxygène, on fait de l'ozone, et donc on fait une couche d'ozone qui protège de la lumière du soleil, qui protège de la chaleur. Donc la couche d'ozone nous protège de la chaleur et elle favorise toute la vie sur Terre. Quand on vous dit que la couche d'ozone va être un petit peu abîmée, ben c'est parce qu'on enlève des organismes qui fabriquent de l'oxygène et on enlève la capacité de régénérer ou en tout cas de protéger la couche d'ozone. Il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est que dans la mer, il y a beaucoup de ces bactéries, beaucoup de ces protozoaires, et il y a beaucoup de ces algues qui sont capables de faire de l'oxygène. Et on sait que tout l'environnement marin est capable d'absorber le CO2 et aussi de régénérer de l'oxygène. Donc c'est vraiment, la biologie marine est en train de faire un bond à l'heure actuelle parce qu'on se rend compte qu'on a une richesse extraordinaire, disons de renouvellement de l'atmosphère, de recyclage, qui est due justement à tout ce plancton. Alors, on vient de parler du phytoplancton et du zooplancton. Bon, il y a deux sortes de plancton. Il y a du plancton qui ressemble plutôt à des végétaux, c'est du phytoplancton. Et il y a du plancton qui ressemble plutôt à des animaux, c'est du zooplancton. Et là, comme nous sommes en train de parler d'être unicellulaire, eh bien tout ce plancton est fait de tous ces petits micro-organismes dont je viens de parler. Et en fait, vous avez sûrement entendu parler d'une expédition qui s'appelait l'expédition Tara-Océan. L'expédition Tara-Océan s'intéressait à faire un peu un catalogue de tout ce qu'il y a dans, tout ce qu'il y a dans l'océan. Et bon, c'était fait à intenter, mais quand même, c'est le démarrage de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de dire, cette goélette se promène en gros sur le chemin de Darwin, mais pas tout à fait, ramasse tous des organismes, les ouvre. Et là, je vais aborder à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Essayer de comprendre ce que c'est que toutes les espèces par ce qu'on appelle de la métagénomique, en essayant d'analyser le génome de tous ces organismes et de faire des catalogues. Alors, on est au début d'une histoire. On est au début d'une histoire parce que dans 50 ans, si j'étais là, je vous ferais la conférence en disant on a regardé tout ça sur une échelle de temps pendant 25 ans et on a vu que, par exemple, dans la mer des Sargasses, ça a évolué comme ci ou comme ça, que autour de l'île Dieu, c'était très protégé. Alors, du coup, ça n'a pas bougé beaucoup. Enfin, on pourrait... je pense que la biologie va vers ça. Et elle va vers ça pour la biologie marine parce que là... publiquement, on le sait, il y a Tara qui se promène, mais on va y arriver aussi pour le sol. La biologie du sol est extrêmement, extrêmement importante. Quand on sait quand il y a des antibiotiques qui sont déversés dans le sol, pour des raisons X ou Y, on tue toutes les bactéries du sol. Le sol est très riche en micro-organismes. Et bon, comme vous avez vu, ce livre est édité avec un dessinateur, un plasticien, Fabrice Hibert. Et j'aime bien le dessin qu'il a fait pour montrer que, en fait, les plantes ont des racines. Les racines sont, en fait, l'endroit des plantes par lequel elles mangent. Donc, elles mangent, donc les nutriments arrivent par les racines, mais ces nutriments sont aidés par, et je n'ai pas encore prononcé le mot, le microbiote racinaire. Donc, autour des racines, il y a un microbiote qu'on appelle le microbiote racinaire. Et puisqu'on me l'a demandé il y a deux jours, qu'est-ce que c'est un microbiote? Qu'est-ce que c'est le microbiote? Premièrement, on ne peut pas dire le microbiote. Soit on dit le microbiote intestinal, soit on dit un microbiote. Un microbiote, c'est une assemblée de microbes, une assemblée de micro-organismes, c'est-à-dire une assemblée de toutes petites choses qui sont en équilibre. Donc vous avez des bactéries, vous avez des archées, vous avez des amibes, vous avez des virus, vous avez de tout. Et tout ça, c'est en équilibre, ou en tout cas, ça doit être en équilibre, parce que si ce n'est pas en équilibre, dans le cas de l'intestin, on parle de dysbiose. Si ce n'est pas en équilibre, vous avez une plante qui meurt. Voyez, donc l'équilibre est extrêmement important. Donc, vous me disiez, avant, on ne parlait pas de microbiote, est-ce qu'on les a découverts? On les a découverts, mais on les connaissait, si vous voulez. Bon, j'ai mentionné le nom de Pasteur tout à l'heure. En fait, Pasteur avait un élève qui s'appelait Mechnikov. Et Mechnikov, il venait d'Ukraine. Mechnikov, il a eu le prix Nobel pour avoir découvert les macrophages, c'est-à-dire des cellules qui mangent tout ce qui est pathogène. Quand il a eu son prix Nobel, il s'est intéressé à autre chose. Il était déjà très vieux. Il s'est intéressé à la longévité. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un petit village en Ukraine où les gens, où il y avait beaucoup de centenaires. Et dans ce petit village, les gens ne mangeaient que pratiquement que des produits laitiers. Donc en fait, il s'est rendu compte que les produits laitiers entretenaient certainement la bonne santé de ces gens. Et de fil en aiguille, il en est arrivé à proposer qu'il fallait faire très très attention à ce qu'on mangeait, à l'équilibre de ce qu'il y a dans l'intestin, etc. Donc petit message pour aujourd'hui aussi, c'est que le microbiote intestinal est très important pour la bonne santé et que tout ce qu'on a appris dans les 10 dernières années, là moi je pourrais vous faire une heure sur le microbiote, tout ce qu'on a appris, c'est que le microbiote très diversifié égale bonne santé. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule sorte de bactérie dans votre intestin, vous pouvez vous dire qu'il se passe des choses qui sont graves. Mais si vous avez un microbiote qui est très très diversifié, c'est que vous êtes en bonne santé. Et pour qu'il le maintenir en bonne santé, il faut avoir une alimentation très diversifiée. C'est le béaba, mais il faut savoir aussi c'est que ce microbiote intestinal, vous l'acquérez dans les premières années de la vie, mais qu'il peut y avoir des moments où il va commencer à s'appauvrir. Par exemple, vous voulez soigner une angine, vous prenez des antibiotiques, vous soignez l'angine, mais vous tuez aussi un certain nombre de bactéries qui sont dans votre intestin. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. L'âge fait que la diversité baisse. Donc, les gens d'un certain âge doivent vraiment faire encore plus attention que les gens qui sont plus jeunes. Bon, il y a des tas de choses comme ça, mais disons que les microbiotes diversifiés, il y en a aussi dans les racines des plantes, il y en a aussi dans l'océan, il y en a vraiment partout. Donc tous les écosystèmes doivent vivre en équilibre et il faut faire attention à ne pas rompre cet équilibre.
Moi, j'ai fait comme à l'école. Il y a une chose qui aussi explique l'importance enfin, du microbiote, mais surtout de la diversité des bactéries, c'est qu'on apprend dans ce livre que les bactéries se parlent entre elles. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, alors, donc, c'est marqué, oui, oui. C'est marqué et c'est vrai. Là, on arrive dans des choses un tout petit peu plus compliquées, mais elles se parlent entre elles. En fait, elles communiquent entre elles. Elles communiquent avec des molécules chimiques. Non, elles ne chantent pas, ou en tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore entendu parler de bactéries qui émettent des sons, mais c'est quand même important de savoir qu'elles émettent des signaux et elles sont capables de recevoir des signaux. Bon, alors vous allez dire, and so what? En fait, si elles sont dans un environnement fermé, mettons une bactérie qui est dans un environnement fermé, elle produit un signal, bon, bah, c'est tout, il ne se passe rien, puisqu'il n'y a pas de petite sœur. Mais elle est en train de se nourrir, elle se divise, il y a beaucoup de signaux qui finissent par arriver dans ce petit environnement, et finalement, toutes les bactéries sont capables de se dire, je ne suis pas toute seule, j'ai des voisines. Et puis au bout d'un temps, mettons de 2-3 jours, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce petit environnement, et elles se disent, ah bah oui, on est ensemble. Eh bien, il y a des bactéries qui, quand elles sont ensemble, elles se mettent à faire des choses ensemble qu'elles ne font pas quand elles sont toutes seules. Donc, quand elles sont toutes seules, elles ne font pas. Et quand elles sont beaucoup, elles font. Alors, vous allez dire, elles font quoi? Alors, elles font, par exemple, elles produisent une toxine. Donc, vous avez, par exemple, des staphylocoques qui, quand ils sont tout seuls, ils ne font rien. Et quand ils sont beaucoup, eh bien, ils vont produire une toxine. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est un exemple qui est ennuyeux, mais je vais vous donner un exemple plus drôle. Je crois que je l'avais raconté il y a 4 ans, parce que je l'aime bien celui-là. C'est des bactéries qui font de la lumière. Donc, c'est la fameuse histoire d'un calamar en Californie. Alors, c'est un calamar qui est en Californie et qui, évidemment, dort pendant la journée dans le sable. La nuit, il se réveille pour aller chasser les crevettes. Le calamar a des prédateurs. Donc, les prédateurs repèrent le calamar comment? Ils repèrent le calamar parce que le calamar fait une ombre portée sur le sol quand la lune l'éclaire. Mais le calamar peut avoir dans sa petite poche interne des bactéries. Et ces bactéries, quand elles sont nombreuses, elles sont capables de faire de la lumière. Donc le calamar, qui dans sa petite poche a des bactéries nombreuses, c'est comme s'il avait un petit phare qui éclaire son ombre portée. Donc il n'y a plus d'ombre portée. Donc le calamar, il est protégé des prédateurs par ses petits vibrios. À la fin de la nuit, qu'est-ce qu'il fait ? Tous les vibrios s'en vont et le calamar repart dans le sable dormir pendant toute la journée. Donc ça, c'est l'exemple. C'est vraiment un modèle d'étude à l'heure actuelle qui est extraordinaire et qui est un petit peu moins triste que justement les bactéries pathogènes qui, quand elles sont nombreuses, se mettent à produire une toxine. Ceci dit, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, où vous savez qu'on a beaucoup de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, il faut trouver d'autres moyens, d'autres nouveaux moyens d'attaquer les bactéries. Eh bien, on empêche qu'elles communiquent entre elles. On essaie de trouver des moyens pour empêcher qu'elles communiquent entre elles. Comme ça, eh bien, elles ne vont pas faire leur toxine. Voilà.
Vous êtes ici venus très nombreux et vous êtes tous vaccinés. Ce matin, j'avais mon père et ma mère devant moi et je leur disais « Est-ce que vous savez quel type de vaccin vous avez reçu ?» Alors, l'un dit le Moderna et l'autre, mon père, qui est un grand scientifique, me dit le vaccin ARN messager. En fait, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il existait différents types de vaccins et j'ignorais quel genre de vaccin j'avais reçu. Je me demande, je pense que nous sommes assez nombreux dans ce cas. Alors, tant pis pour les médecins, tant pis. Mais Pascal, voudriez-vous nous expliquer cela ?
On avait dit qu'on ne parlerait pas beaucoup de Covid-19, mais j'ai l'impression qu'on y arrive un petit peu quand même. Bon, d'abord, avant, en préambule, je voudrais vous dire qu'on a quand même assisté cette année à une révolution que je trouve astronomique du côté de la vaccinologie. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, je vais quand même vous montrer. Donc, il y a différentes formes de vaccins. En fait, Oui, parce que peut-être que je pourrais quand même un petit peu commenter ce livre avant d'arriver au vaccin. C'est quand même un livre qui est fait en question. Hein. C'est un livre qui est fait en question et en réponse et qui est illustré par Fabrice Hibert. Bon, alors, il y a différentes formes de vaccins. Vous souvenez que c'est Pasteur qui avait quand même fait les premiers vaccins. Bon, il avait copié des vaccinations naturelles qui se passaient, mais je vais vous parler du vaccin de la rage, par exemple. Le vaccin de la rage, on vaccine avec ce qu'on appelle un virus qui est atténué. Pourquoi il est atténué, ce petit virus ? Ben, on l'a mis dans un endroit où il ne se multipliait pas bien, pas bien. Mais on l'injecte. Et en fait, on s'aperçoit que l'organisme, il est capable de réagir à ce virus qui est atténué. Donc il est atténué par différentes sortes de choses, des produits chimiques ou justement par des cultures successives. Donc ça, c'est les premiers vaccins, c'est les vaccins atténués. On peut aussi avoir des vaccins qui sont des virus tués. Vous prenez votre virus et puis vous le tuez. Et à ce moment-là, c'est à peu près la même chose. Et puis, vous pouvez aussi dire, on a un vaccin... Par exemple, le SARS-CoV-2. Donc, ce vaccin-là, vous l'avez tous vu dans vos journaux, il a des petites piques. Hein, et la protéine qui est sur la surface, c'est la protéine Spike. Bon, imaginez que vous purifiez cette protéine Spike. D'accord ? C'est un vaccin qui n'existe pas encore, il va sortir à la fin de l'année. Vous purifiez cette protéine Spike. D'accord ? Et vous l'injectez. Eh bien, votre organisme va faire des anticorps contre cette protéine spike. D'accord ? Ça, c'est le virus, c'est le vaccin qui est en train d'être fait chez Sanofi. Donc, ça, c'est un vaccin classique. C'est un vaccin contre une protéine du virus. Bon, ben, par exemple, vous avez tous eu un vaccin avec une protéine comme ça. C'est contre, par exemple, la diphtérie. Vous avez une toxine diphtérique et vous avez reçu le vaccin. Voilà. Bon. Le vaccin, donc vous avez compris, j'en ai déjà parlé de trois sortes, hein, des vaccins tués, des vaccins atténués et là des protéines. Le quatrième, c'est l'ARN messager. Alors là, je suis obligée de parler de quelque chose de compliqué, c'est l'ADN, l'ARN et les protéines. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure, bactéries, archées, très bien. Bon. Mais tous ces organismes vivants, ils ont à l'intérieur soit du noyau, soit à l'intérieur des cellules, ils ont de l'ADN. Ils ont tous de l'ADN. D'accord ? Cet ADN, c'est quoi ? C'est comme une espèce de grand ruban qui est fait avec des nucléotides, etc. Et cet ADN, c'est votre patrimoine génétique, vous le savez, c'est vos gènes. Je ne peux pas rentrer dans les détails, si vous voulez des cours particuliers, je vous en donnerai. Je ne peux pas, là. Donc, l'ADN, mettons que vous avez une bactérie qui se divise en deux. Quand elle grossit, elle s'est nourrie, elle se divise en deux. L'ADN, il va se dupliquer. Il y en aura un qui va être de l'autre côté et l'autre côté. D'accord ? Donc là, il a été copié, il a été répliqué. Tu comprends, Jacques ? Bon, donc voilà. Donc on a une bactérie avec le même patrimoine génétique. Ça se passe aussi dans vos cellules, à vous. Hein. Vous êtes en train de cicatriser une petite plaie, et vous avez des cellules qui vont se diviser, et il va y avoir une répartition. Voilà. Donc ça, c'est l'ADN. L'ADN, je vous l'ai dit, il s'est dupliqué, il s'est répliqué. Donc il est copié, exactement le même. Mais quelquefois, il y a un processus qui s'appelle la transcription. Et là, ce n'est pas copiage direct, c'est copiage, mais avec des produits qui ne copient pas bien, qui ne copient pas exactement avec les mêmes produits. Et ça, on appelle ça la transcription. Et ça veut dire que l'ADN va donner de l'ARN. Bon. Donc l'ADN peut donner de l'ADN, l'ADN peut donner de l'ARN. Et l'ARN, en fait, c'est encore comme un petit ruban. Et c'est un petit ruban qui ne reste pas comme ça. Tout de suite, dans les cellules, on a ce qu'on appelle des machines qui s'appellent des ribosomes et qui vous transforment cet ARN en protéine. Alors, il y en a qui m'ont suivi, il y en a qui ne m'ont pas suivi. Donc, je recommence.
Je vois personne prendre des notes, moi.
Non, je recommence. J'ai l'ADN. L'ADN dans une bactérie qui grossit. L'ADN est copié, il est dupliqué. Deux bactéries vont avoir chacune leur ADN. D'accord ? Quand vous êtes chez les eucaryotes, c'est pareil. Vous avez une plaie, je vous l'ai dit, qui cicatrise, une cellule qui se divise. Qui a fait des... Et là, encore une fois, on a dupliqué l'ADN. Donc un ADN peut se répliquer. Il peut aussi être copié, mais d'une façon un petit peu différente, pas tout à fait pareil. Et là, on appelle transcrit. Et il est transcrit en ARN. L'ARN, il est tout de suite pris en charge par quelque chose, une machine qui s'appelle un ribosome. Et les ribosomes, ils voient ce ruban et ils fabriquent une protéine. Ils lisent et ils fabriquent une protéine. On va dire, qu'est-ce que c'est une protéine ? Eh bien, une protéine, c'est encore un autre composant de la cellule que vous pourrez regarder dans mon bouquin. Mais, pour revenir au virus, d'accord ? Je m'appelle SARS-CoV-2. Je rentre dans une cellule. Je me déshabille. Ça, c'est SARS-CoV-2 fait ça. SARS-CoV-2, c'est un virus. Il n'a pas d'ADN. Il n'a pas d'ADN. Le SARS-CoV-2, c'est un virus à ARN, simple brin. Un grand virus à ARN, simple brin. Bon, lui, quand il arrive dans une cellule, ce virus, il est pris en charge par toutes les machineries de la cellule qui vont fabriquer différentes protéines et qui vont fabriquer un virus. Et donc, parmi toutes les protéines qui sont faites, il y en a une qui s'appelle la protéine Spike. Donc, on a des nouveaux virus qui sont fabriqués. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle du SARS-CoV-2. Je ne voulais pas parler du SARS-CoV-2. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez compris ce qui se passe ? Donc, je continue. On arrive au vaccin ARN messager. Le vaccin ARN messager, c'est quoi ? C'est une petite particule. Petites particules, il y a des lipides tout autour. Et à l'intérieur, il y a juste un ARN messager pour la protéine qui est autour du virus, la protéine Spike. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas du tout de protéine virale, rien du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La nanoparticule, là, elle arrive dans une cellule. Elle se déshabille, elle se dissout. Elle se dissout. Et cet ARN, il est pris en charge par les grosses machines que j'ai citées, qui s'appellent des ribosomes, poup, ça fait une protéine spike qui tout de suite est vue par le système immunitaire. Il y a fabrication d'anticorps et tout le système immunitaire se met en route. Voilà. Ça va ?
Alors, avant qu'on en vienne aux questions. Alors, il y a une notion de perpétuel dans la bactérie qui est en collision avec ce titre très particulier que vous portez, qui est celui de secrétaire perpétuel de l'Académie. Qu'est-ce que c'est que le secret qu'un secrétaire ? Parce qu'on ne dit pas une secrétaire, qu'on ne met pas perpétuel, deux L, E. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ok, on va d'abord parler des bactéries. Alors, les bactéries, en fait, elles sont perpétuelles parce qu'une bactérie donne deux bactéries vont donner quatre bactéries, etc., etc. Donc, en fait, elles sont un peu éternelles, on pourrait dire. Est-ce que les bactéries qui étaient là au Moyen Âge, elles sont encore ici, etc. Quelque part, oui, puisqu'elles se sont dupliquées, elles sont encore là. On sait que les archées qui étaient là il y a 3,5 milliards d'années, elles sont quand même assez semblables, sans doute, à ce qu'elles étaient. Bon, mais une bactérie meurt vraiment, parce qu'il y en a qui meurent. Elles explosent, elles se retrouvent dans un milieu où elles sont bon. Ou alors, une bactérie rencontre une méchante bactérie, parce qu'elles s'attaquent aussi de temps en temps. Elles se parlent, mais elles s'attaquent. Elles ont des systèmes pour faire que on va sur leur ADN et l'ADN se dégrade, du coup la bactérie meurt. Donc voilà. Donc ça c'est pour du côté des bactéries. Du côté des secrétaires perpétuels, ça dépend des académies. Donc à l'Académie française, Madame Hélène Carrère-Dancausse est secrétaire perpétuelle. Et ça veut dire que quand elle a été élue, elle est restée secrétaire perpétuelle et qu'elle a un mandat qui ne se termine pas, sauf si elle démissionne ou si elle meurt. Voilà. À l'Académie des sciences, les secrétaires perpétuels sont élus pour 6 ans. Et donc, nous ne sommes pas perpétuels, mais quand on devient perpétuel honoraire, on devient secrétaire perpétuel honoraire à perpétuité. Voilà.
Et justement, à propos de l'Académie, malheureusement, ce livre n'est plus disponible à la Maison de la Presse. Mais par contre, le 17 septembre de cette année... Le 19 septembre, il y aura des portes ouvertes à l'Académie où Pascal sera là. Alors, ça sera quand même une occasion extraordinaire de découvrir ce lieu pour ceux qui ne connaissent pas et puis aussi d'acheter ce livre. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une question. Mais maintenant, avez-vous vous-même des questions ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce jour-là, mon co-auteur Fabrice Hibert, qui a dessiné, sera là. Et je pense que, si vous voulez, c'est quand même un énorme plus à cet ouvrage, c'est qu'en fait, on a travaillé ensemble. Et il ne connaissait rien à rien. Et donc, on a essayé d'illustrer des concepts qui n'étaient pas forcément simples. Et je pense que ça allège la lecture d'avoir une question relativement simple, des réponses simples et un dessin. Voilà. Il y a quelque chose quand même qu'on n'a pas évoqué, et je pense que c'est important de l'évoquer, c'est l'alimentation. L'alimentation, par exemple, je trouve que c'est quand même assez frappant. Par exemple, vous pensez au yaourt. Vous faites du yaourt, vous n'avez besoin que de 2 bactéries. Et ces 2 bactéries, bah, si je vous dis leur nom, vous allez dire quoi ? Un streptocoque pour faire du yaourt ? Bah oui, mais les noms sont troublants. Streptococcus thermophilus, ben, il n'est pas du tout méchant. Il vous fait du yaourt avec un autre lactobacille, vous voyez. Donc, il faut vous rendre compte que les noms dans les catégories de bactéries, il y en a qui sont nocives, il y en a qui sont pathogènes, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc, voilà. Moi, j'ai à peu près fini. Je vais répondre aux questions. Mais je voudrais quand même que bien redire 2 choses. Hein. Les virus ne font pas partie du monde du vivant. Le monde du vivant, c'est les bactéries, les archées, les eucaryotes. Et dans les eucaryotes qui ont un noyau, vous avez les hommes, les animaux, les plantes et tous les organismes unicellulaires que sont les microalgues, les protozoaires et puis les levures, les champignons. Voilà, ça c'est le premier message. Deuxième message. Tous les micro-organismes sont absolument indispensables à l'équilibre de l'environnement, à votre équilibre, à l'équilibre des animaux, à l'équilibre de la vie sur Terre. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, voilà.
Bravo, Pascal. Bravo. Bravo, Pascal. C'était vraiment incroyablement pédagogique et joyeux. Merci. Y a-t-il des questions ? Je suis sûre que oui.
Levez-vous parce que ça sera plus simple.
Dans le sang, il n'y a pas de bactéries.
Raté. On se rassoit. Allez, zoom. Zéro.
Disons que dans le corps humain, puisque en fait c'est un peu ça, dans le corps humain, il y a des endroits où il y a des bactéries, il y a des endroits où il n'y en a pas. Il y a des microbiotes, il y a le microbiote orobuccal, le microbiote nasal, il y a le microbiote intestinal, il y a le microbiote sur la peau, chez les femmes, il y a le microbiote vaginal, mais non.
Ni dans le cerveau.
La transmission des bactéries de personne à personne.
Oui. Mais non, mais la transmission de bactéries de personne à personne, c'est quelque chose de tout à fait classique. Mais quand c'est le bacille de Koch, la Mycobacterium tuberculosis, c'est très ennuyeux. C'est transmis par des postillons et donc ce sont des maladies qui ne sont pas transmises par un animal. Elles sont transmises directement d'homme à homme. C'est une question qui est tout à fait importante. Quand on a une maladie, on se pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il y a une transmission interhumaine ou non ? Et par exemple, SARS-CoV-2, on sait qu'il y a une transmission interhumaine et on remet nos masques.
Alors nous avons une journaliste spécialiste du bien-être qui veut poser une question. Alors, Laurence Dorlac. Donc c'est une question sur le marché des microbiotes.
Les gens qui prennent des Actimel le matin mangent déjà des probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est un probiotique ? Un probiotique, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est un mélange de bactéries qui, quand il est donné en quantité suffisante, est capable d'avoir un pouvoir positif sur la santé. Ça, c'est la définition. Alors, il n'y a pas beaucoup de bactéries qui sont qualifiées vraiment. Et puis, il n'y a pas encore beaucoup de règles d'or. Donc, le marché a vraiment le champ libre pour le moment. Mais il faut avoir fait l'expérience d'avoir des petits problèmes intestinaux et puis de se rendre compte que si on mange des yaourts comme ci, ça nous fait du bien. Si on mange des yaourts comme ça, ça nous fait du bien. Si on a pris pour une fois dans sa vie probiologue ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Yakout, voilà. Oui, ça c'est ce qu'on donnait avant pour quand on était traité par les antibiotiques. Mais bon, pourquoi pas ? Tout à l'heure, j'ai parlé de Mechnikov. Et lui, il a utilisé un mot que j'aime beaucoup et qui n'est pas utilisé et que j'essaie de promouvoir à l'heure actuelle, qui s'appelle la bactériothérapie. La bactériothérapie, c'est ça, c'est d'essayer de soit repeupler son microbiote intestinal avec des bactéries, etc. etc. Alors sur la peau, pourquoi pas ? Moi, je pense que oui. On connaît de plus en plus le microbiote et les maladies qu'on n'arrive pas à guérir, il faut être ouvert à tout. Hein. Non, moi je ne suis pas du tout opposée à ça.
Donc c'est une question à propos de l'immunité et des virus, la façon dont... Voilà.
Non, il y a eu une sélection pour les hommes qui étaient plus résistants à ces virus. C'est par sélection. Mais il n'y a absolument rien à voir avec le vaccin ARN messager. Oh là, on est en train d'arriver dans des territoires que je ne voudrais pas... Non, il n'y a pas du tout d'introduction dans les génomes. Alors qu'on sait que certaines populations ont acquis des gènes d'immunité innée au cours de l'évolution et ils se sont propagés dans différentes contrées. Non. Moi, j'ai entendu... Monsieur m'a demandé, on parle du permafrost, est-ce que vous êtes inquiète ? Alors, moi, je vais vous dire, je ne connais pas très bien, mais ce que je peux dire, c'est que vous venez de parler de quelque chose que je trouve important, c'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique va influer sur l'équilibre du monde. Je ne sais pas, pour citer des exemples, on va voir arriver des moustiques qui véhiculent des virus qu'on ne voyait pas par ici. On va peut-être avoir de la dengue à l'île-dieu, etc. On a vu du permafrost qui s'était dégelé en Russie et on a vu des spores de Bacillus anthracis qui ont tué des troupeaux de rennes. Donc, oui, il y a des choses qui sont qui se passent. Mais ça, c'est la microbiologie du sol. Hein. Mais d'ailleurs, là, je viens de dire quelque chose qui est important, c'est les spores. Les bactéries peuvent sporuler. Tout à l'heure, on a parlé de la vie des bactéries, qu'elles étaient éternelles, etc. En fait, elles sont éternelles parce qu'elles se divisent et elles donnent une dégénération des générations. Mais quelquefois, elles se retrouvent en stress. Ça peut être un stress alimentaire, il n'y a pas assez à manger. Et il y a certaines bactéries, pas toutes, qui forment des spores. Et les spores restent là pendant longtemps et puis elles peuvent ressurgir. Et c'est comme ça que là, je vous parle des spores de Bacillus anthracis. Je pense que vous avez entendu parler des spores de Bacillus anthracis. Il y a quelques années, il y avait des spores de Bacillus anthracis qui avaient été envoyés par courrier aux États-Unis. Et donc, il y avait eu des gens, il y avait eu quelques personnes qui étaient mortes d'infections pulmonaires à cause de ça. L'anthrax, oui.
Alors, pardon, monsieur.
Ah, mais c'est une très bonne question. Oui. Non, mais Gilles est en train de me demander. On a parlé d'ARN messager, on ne nous explique pas ce que c'est. Moi, j'ai cru que je vous l'avais expliqué, donc mea culpa, non. Non, mais j'explique. Le mot messager, j'ai compris. Je vous ai dit l'ADN, il peut faire deux choses. Soit il est copié, répliqué, il redonne de l'ADN, soit il est copié d'une façon pas tout à fait identique, il donne de l'ARN. Et très vite, les ribosomes vont faire des protéines. Eh bien, cet ARN-là, c'est un ARN messager. En fait, il est messager entre l'ADN et les protéines. C'est comme ça que Jacob et Monod l'avaient appelé, l'ARN messager. Oui, mais à ce moment-là, tu peux me dire, est-ce qu'il y a des ARN qui ne sont pas messagers? Eh bien oui, il y en a. Il y en a. Il y en a dans la cellule. Il y a ce qu'on appelle des ARN de transfert. Bon, ce sont des ARN de transfert. Ils sont capables d'amener un acide aminé, etc. Il y a des ARN de transfert. Et puis, depuis très peu de temps, on s'est aperçu qu'on avait des tout petits ARN qui ne codaient pas pour des protéines et qui ont des fonctions de régulation dans les cellules. Mais non, c'est une très bonne question. C'est bien de poser cette question-là. Oui ? Bon, déjà, c'est une très bonne question que je n'ai pas abordée et je trouve que c'est très bien, c'est complémentaire à ce que j'ai raconté. Oui, je suis inquiète. Oui, les antibiotiques ont été la panacée universelle après la guerre. On va dire dans les années 50, on a tous élevé des enfants, ceux qui ont en tout cas à mon âge, en leur donnant des antibiotiques pour un oui, pour un non. Jusqu'au moment où la Sécurité sociale a eu cette grande campagne en disant les antibiotiques, c'est pas automatique. Il faut pas donner des antibiotiques n'importe comment et tout ça. Pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas donner ça ? Parce qu'on a des bactéries qui sont devenues résistantes, et là je vais pouvoir vous expliquer comment, mais aussi parce que ça ne sert à rien de donner des antibiotiques si on a une maladie virale. Et enfin, il vaut mieux que votre système immunitaire, ou en tout cas celui de l'enfant, soit exercé avec des petites maladies pour pouvoir être de plus en plus résistant. Voilà. Donc, oui, je suis inquiète. Et oui, les scientifiques sont inquiets. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites pour essayer de trouver des moyens de lutter contre les bactéries. Conclusion. Gardons les antibiotiques qui marchent pour les cas où on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est vraiment ça. Et puis, cherchons d'autres outils. Alors, on peut chercher d'autres outils parce qu'on a maintenant d'autres technologies. On sait que les antibiotiques ont été les premiers qui ont été produits. La pénicilline a été produite par un champignon, Penicillium notatum. Bon, OK. On sait qu'il y a beaucoup de bactéries qui donnent des antibiotiques. Donc, on a essayé d'en cribler et on en a trouvé beaucoup. Et puis, on a arrêté. Et là, maintenant, on est mieux capable de refaire pousser des bactéries, refaire pousser des organismes qu'on ne savait pas faire pousser. Et on recherche maintenant de nouvelles molécules ou alors on fait des synthèses au hasard de produits chimiques et on teste sur des bactéries pour savoir. Et puis, on essaie d'autres techniques. Tout à l'heure, j'ai parlé d'essayer d'empêcher que les bactéries se parlent pour ne pas travailler ensemble. J'ai pas évoqué encore l'utilisation de virus de bactéries pour tuer les bactéries. Et ça s'appelle la phagothérapie. Et ça, c'est une technologie que moi, je trouve hyper intéressante. On utilise des virus de bactéries pour aller tuer les bactéries. Et ça, c'est quelque chose qui était en train d'être mis en route, surtout en Europe de l'Est, où les gens utilisaient des virus, on appelle ça des bactériophages, ça tue les bactéries. Alors en France, ce n'est pas autorisé parce que ce n'est pas encore bien réglementé, etc. Bon, ceci dit, c'est compliqué parce que les virus sont très titilleux. Il faut qu'ils aient un récepteur sur une bactérie. Donc un virus, par exemple, va taper sur une bactérie, ne va pas taper sur une autre. Et un virus de staphylocoque doré va taper sur le staphylocoque doré numéro 1, mais pas sur le numéro 3, etc. Donc il faut maintenant constituer des bibliothèques, des phagothèques, si vous voulez, et y a des gens qui font ça. Je connais au moins une start-up en Israël qui est en train de se faire une phagothèque pour avoir des virus qui soient prêts. Y a des gens qui n'ont pas réussi à se guérir et qui se... Oui, je vous dis. Je vous le dis. Je vais vous le dire. Voilà. Non, je vais le dire. Comment une bactérie devient résistante ? Il y a deux méthodes, mais surtout une. C'est qu'une bactérie, elle peut se retrouver dans un environnement où, par hasard, il y a un petit bout d'ADN qui traîne. Parce que les bactéries, de temps en temps, il y en a une qui meurt, il y en a une qui s'est fait attaquer par un virus, etc. Donc, il y a un petit bout d'ADN qui traîne et il y a certaines bactéries qui sont ce qu'on appelle compétentes. À un moment de leur vie, elles sont compétentes, elles peuvent avaler un bout d'ADN. L'ADN, il vient dans leur génome. Et il s'intègre. Et puis tout d'un coup, vous avez cette bactérie qui a la capacité d'être résistante. Alors maintenant, vous allez me dire comment on est résistant. Il y a différentes techniques pour être résistant. Je vais vous en donner une, par exemple. Une bactérie est capable de fabriquer une pompe. Donc s'il y a un antibiotique qui arrive sur la bactérie, elle a une pompe pour le faire sortir dehors. Pout ! L'antibiotique, il sort. Ou alors, le gène de résistance, là, il fabrique quelque chose qui coupe l'antibiotique s'il arrive. L'antibiotique, il arrive, la bactérie, elle coupe l'antibiotique. Après, elle s'en fiche, c'est fini. Ou alors, elle modifie la porte d'entrée de l'antibiotique. L'antibiotique ne peut pas entrer. Vous voyez, il y a beaucoup de mécanismes de résistance. Bon, et puis, alors là, je vous ai dit, il y a un petit bout d'ADN qui traîne. Mais il peut y avoir aussi des choses plus sexy qui se passent, on va dire. C'est-à-dire vous avez des bactéries qui se collent l'une contre l'autre, et il y a conjugaison d'un petit bout de plasmide, et il y a un gène de résistance qui arrive dans la bactérie. Et tout d'un coup, cette bactérie, elle prolifère parce qu'elle est résistante aux antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, ça peut se passer à différents endroits. Imaginez qu'une bactérie devienne résistante dans un poulet ou dans une vache. Et puis tout d'un coup, elle arrive chez l'homme et c'est la bactérie qui... Voilà, qui... Donc il y a vraiment... Oui, je suis inquiète. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Oui, c'est un problème pour les années qui viennent.
On va prendre une dernière question.
Non, mais madame pose la question de tous les régimes qu'on voit fleurir. Vous avez parlé des régimes végétariens, des régimes je ne sais pas lesquels autres. Oui, ben ça c'est végétarien, etc. Et tout. Oui, ben moi je ne suis pas particulièrement pour des choses qui soient trop spécifiques. Je pense qu'une alimentation extrêmement variée est certainement bien meilleure. Je suis contre toutes les choses qui sont pré-préparées, ça c'est sûr. Non, l'équilibre au niveau intestinal, c'est sûr qu'il passe par une alimentation équilibrée. Mais d'un autre côté, on sait aussi que, ce que je vous racontais, c'est que la longévité de ces gens qui étaient centenaires dans ces pays d'Ukraine, c'était des gens qui ils mangeaient pas que ça, mais ils mangeaient beaucoup de produits laitiers, etc. et tout ça. Donc, bon, voilà. Bon, une chose que je n'ai pas dite quand même, peut-être c'est important, c'est que il n'y a pas que l'équilibre qu'on a, l'équilibre au niveau intestinal, il a des répercussions sur beaucoup de choses. Il a des répercussions sur même les autres microbiotes. Il a des répercussions sur les autres microbiotes, c'est-à-dire, c'est un peu bizarre, mais on se rend compte que un équilibre au niveau intestinal peut influer sur la peau, etc. Bon, ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous devriez dire, comment ça se fait qu'on n'est pas en train de faire des anticorps contre toutes ces bactéries qui sont dans l'intestin ? Eh bien, en fait, on est tolérant. Et donc, en fait, ces bactéries de l'intestin, elles stimulent le système immunitaire, mais à bas bruit. On est en espèce d'équilibre comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'un déséquilibre peut aussi faire des déséquilibres qui ont des répercussions importantes. Et enfin, et ça fait écho à ce que vous avez entendu tous, c'est que les bactéries de l'intestin, elles stimulent les cellules de l'intestin à fabriquer un certain nombre d'hormones, un certain nombre de composants qui peuvent aller jusqu'au cerveau et influer sur votre humeur, sur votre caractère, etc. Bon, alors évidemment, on n'en est qu'au début, mais on pourrait dire, je te donne ça à manger et puis tu seras peut-être plus gentil. Ou...
Arnaud, est-ce qu'on peut prendre encore deux questions ? On peut prendre deux questions ? Alors, bon, pardon, madame, allez-y.
Non. Ça, mais ça, c'est vraiment... Attendez, là. Vous avez un petit bout d'ARN qui arrive dans votre corps, qui fabrique une protéine. Je peux vous dire, on vient d'assister à une révolution. Hein. On a besoin de ces vaccins. On a besoin de ces vaccins pour soi et pour les autres. Franchement, regardez les chiffres. Moi, je les entendais ce matin. Les populations qui sont vaccinées à 23%, regardez la cata dans les îles Caraïbes, etc. Non, ça, je crois que... Non, ça ne va pas avoir d'impact sur le fœtus. Franchement, là, c'est...
Est-ce qu'on a une dernière question ? Monsieur qui est assis depuis le début.
Être secrétaire de l'Académie.
C'est une fonction, c'est-à-dire qu'en fait, vous organisez la vie scientifique, vous avez entre vos mains l'agenda, vous êtes en train d'organiser, de suggérer des avis, vous avez des liens avec l'Académie de médecine, avec les autres académies. L'Académie des sciences a à l'heure actuelle 3 maisons dont elle a hérité. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub pour ce que je suis en train de faire pour la maison de Louis Pasteur à Arbois. On va fêter le bicentenaire de Pasteur l'année prochaine. Ça fait 200 ans que Pasteur est né. Et donc, on a décidé de rénover cette maison, repeindre les volets, les grilles, les balustrades qui sont derrière, refaire le jardin comme Madame Pasteur aimait qu'il soit. On est en train d'acheter la petite maison à côté pour pouvoir faire une billetterie digne de ce don. Il y a un laboratoire. Je vous conseille d'aller visiter ça. Et puis, si vous voulez nous aider... Non, mais parenthèse. On a déposé un projet à la mission Berne et nous avons été sélectionnés. Donc, je vais recevoir le 18 septembre un chèque de la mission Berne pour justement ce projet. Voilà. Donc, ça fait partie des choses que je fais.
Alors, un grand bravo à Pascal Cossard pour ce magnifique exposé. Donc, n'hésitez pas à la retrouver à l'Académie le 19 septembre, dimanche, voilà. Et avant de passer la parole à Arnaud qui va vous expliquer les programmes des prochains jours, Virginie me fait signe de vous rappeler que vous avez à l'entrée, alors deux choses, d'abord un petit panier pour vos contributions éventuelles et puis également des papiers pour vos inscriptions à notre association et que également vous devez respecter les signes de sortie. Sinon, on va se faire gronder. Voilà, je passe la parole à Arnaud.
Voilà, la semaine prochaine, nous poursuivons avec deux rencontres. Mais attention, ça n'est pas mardi et vendredi, c'est mardi et mercredi. Donc, mardi, c'est Viviane Clem qui interviewera Benjamin Dutreux, le skipper donc, en fait, qui a fait une performance extraordinaire au dernier Vendée Globe, dont les parents habitent sur l'île et lui-même il fait pas mal de navettes en fait avec l'île et qui vient d'acheter un bateau qui sera encore beaucoup plus performant pour le prochain Vendée Globe. Donc ça c'est mardi prochain 11h et mercredi à 11h c'est Michel Barnier, donc il n'a pas besoin d'être présenté, donc qui viendra avant de rejoindre assez rapidement Paris où l'attend une actualité brûlante. Donc mardi et mercredi prochain, on compte sur vous.